l'action de la substance par la Père Marie-Dominique Philippe, le 10 octobre 2002 à Saint-Germain.
Une petite question qui est très importante, dont je vais simplement toucher la question, parce que je dirais que c'est une réflexion critique qui suppose que vous soyez déjà un peu plus avancé. La critique, elle vient après et elle est toujours présente. L'erreur, c'est de la séparer et de croire que la critique existe par elle-même. C'est le danger d'aujourd'hui. La critique, elle n'existe que quand il y a déjà quelque chose. Au fond, en métaphysique, on se critique tout le temps. Parce que c'est une connaissance analogique. Alors que dans la connaissance du genre et différents spécifiques, dans les sciences, on avance sans critiquer. Et on s'arrête quand justement il n'y a plus rien. C'est toujours le très grand danger quand on voit quelqu'un qui fait une thèse en physique ou en chimie. C'est très intéressant à voir comme différence de perspective qu'une thèse en métaphysique. Parce qu'on est dépendant de l'expérimentation. C'est une hypothèse au point de départ. En philosophie, ce n'est pas une hypothèse. Mais en physique et en chimie, c'est une hypothèse. Moi, je sais bien que ce qui est arrivé à Fribourg, ceux qui étaient, ils faisaient des thèses en physique et en chimie, au bout d'un certain temps, venez vous trouver. Mon père, je fais une thèse là-dessus. Au point de vue philosophique, qu'est-ce que vous croyez? Parce que maintenant, je suis dans le noir. Je ne vois rien. Et mon professeur, il voit dans le noir aussi. Est-ce que vous croyez qu'on peut continuer? Alors, pourriez-vous expliciter les différents types d'analogies? L'analogie au niveau de l'être, au niveau des transcendentaux, donc des cinq transcendentaux. Les cinq transcendentaux jouent au point de vue analogique. Il y a l'analogie de l'être, l'analogie du bien. Au niveau de l'attribution, l'analogie de l'attribution, c'est la première analogie que je découvre. Je m'aperçois que je dis l'être se manifeste à moi de multiples façons. Nous allons voir ça en métaphysique. Il y a la substance, il y a la qualité, il y a la quantité, il y a la relation. Tout ça, c'est être. Alors, tout ça s'attribue à la réalité comme un certain être. Donc c'est la diversité à l'intérieur de l'analogie qui montre des attributions diverses. L'analogie de similitude. Ah, l'analogie de similitude, c'est pour montrer une analogie qui n'atteint pas l'être et les transcendentaux, qui ne se fonde pas dans l'être et les transcendentaux, mais qui se fonde dans la similitude. Or, la similitude, elle est au niveau qualitatif. Vous ne dites pas que deux personnes qui mesurent 2 mètres, je prends exprès 2 mètres, parce que c'est plus rare, hein. au sens rigoureux, elles ont 2 mètres d'altitude. C'est le mont Everest dans le monde humain. 1,80 m ou 60, c'est le Mont Blanc. Parce que c'est rare, 2 mètres. 2,05 m, c'est encore plus rare. Bon. On ne dirait pas qu'elles sont semblables. Vous voyez, une similitude dans la quantité, dans la hauteur, c'est pas une véritable similitude. La similitude est dans la qualité. Ces deux personnes ont une intelligence semblable, parce qu'il y a des formes d'intelligence différentes. Il y a une forme d'intelligence artistique, une forme d'intelligence prudentielle, une forme d'intelligence mathématique, une forme d'intelligence métaphysique, différentes formes d'intelligence. Alors, on est semblable dans la qualité. La similitude regarde les qualités et les fonctions. La paternité. La paternité de Dieu et la paternité humaine. C'est une similitude. C'est une analogie de similitude. Elle ne touche pas l'être. Elle ne regarde pas directement, mais la fonction. Et la similitude, la qualité. Donc, elle regarde les qualités sans voir le point de vue de l'enracinement au point de vue de l'être. Y a-t-il d'autres formes de similitude, d'analogie? Il y aura aussi l'analogie au niveau des raisonnements. On dira l'intelligence est à l'homme ce que l'intelligence est à Dieu. C'est des similitudes de relations. Alors, c'est au fond un autre genre de similitude, d'analogie de similitude. L'analogie de similitude peut porter directement sur les qualités ou sur les relations. Qui montre des relations communes. Et vous voyez, mais au fond, c'est encore l'analogie de similitude. Mais l'analogie de similitude peut exister dans 2 manières différentes, dans les relations et dans les qualités. Mais elle ne, vous voyez, alors, dans la relation, c'est ce qui est très particulier, c'est que les relations peuvent ne pas exister. Il y a des relations de raison. C'est le seul prédicament qui est un prédicament qui peut être de raison. Vous ne pouvez pas parler de qualité de raison. Les qualités existent toujours comme qualité. Tandis que la relation peut être indépendante de la réalité et être uniquement dans l'intelligence. Ce que l'intelligence peut créer, ce que l'intelligence humaine peut créer, c'est de nouvelles relations. Je peux créer des relations. Bon, l'artiste, le peintre, découvrira des relations que l'homme n'a pas encore, que l'homme ordinaire n'a pas découvert. Et dans son tableau, il montrera ses relations. Et ce sera le choc. Tiens, j'avais jamais vu ça. Et l'artiste crée des relations. Il crée de nouvelles relations. Si c'est un grand artiste, il crée de nouvelles relations. Si c'est un artiste moindre, il copie les relations de l'artiste génial, il les applique à un autre domaine. Alors, il ne copie pas, il transpose. Nous faisons ça constamment. On découvre une nouvelle relation, et puis on la vole, et on la transpose. C'est très curieux, ça. Et c'est très intéressant de voir que la relation est le seul prédicament qui peut être une relation de raison, c'est-à-dire pas une relation réelle. C'est l'intelligence qui la fabrique. Vous ne pouvez créer que de nouvelles relations. Vous ne créez pas de nouveaux êtres. Les qualités, vous les respectez. La quantité, vous la respectez. Mais la relation, vous pouvez créer de nouvelles relations. Les mathématiques sont constamment dans les relations. Et non pas dans l'être réel existant, mais dans le jeu des relations qu'on n'a pas découvert. Donc c'est le seul prédicament qui peut se séparer de l'être et être un prédicament que j'invente. J'invente, quand je suis génial, j'invente de nouvelles relations. Il y a un artiste qui a un peu de génie, découvre de nouvelles relations. Et c'est ça qui fait que son tableau est génial. Si dans son tableau, il fait ressortir des relations communes, ce n'est pas un génie. C'est peut-être un bon peintre, mais ce n'est pas génial. Tandis qu'il y a des nouvelles relations, ah, ça c'est génial. C'est très curieux. Le critique d'art, hein, porte là-dessus, tout de suite. Et voit tout de suite si cet artiste ne fait que répéter sous des tonalités différentes. Et puis si au contraire on a affaire à quelqu'un qui est génial, et on arrive à le découvrir. Il faut être soi-même génial pour découvrir le génie d'un autre. C'est très curieux. Si vous êtes un petit bourgeois, vous ne découvrirez jamais le génie d'un autre. Vous direz, je ne comprends pas. On trouve que c'est beau, mais moi je ne vois pas. Parce que vous avez, au fond, le petit bourgeois métaphysicien, c'est celui qui demeure toujours dans l'université. Alors il est petit bourgeois de la pensée. Celui qui peut découvrir l'analogie, alors lui, ah, il s'élève plus haut. C'est très très curieux ça, vous verrez ça constamment. On voit celui qui a atteint l'analogie, puis celui qui ne l'a pas atteint. L'université, c'est fatigant. C'est fatigant. L'université, c'est celui qui reste toujours fixé au genre et à différents spécifiques. Il ramène tout au genre et à différents spécifiques. Il ne comprend pas la ratio et le modus. Ça, je crois que là, il faut être très attentif à ça. Très vite, on peut découvrir ça. Il faut le découvrir soi-même. Le père de Haume racontait toujours un excellent professeur et il disait à ses étudiants, je peux bien vous donner l'intelligible, mais non pas l'intelligence. Donc quand il était devant des étudiants qui ne développaient pas leur intelligence, ils ont dit, vous ne comprendrez pas. Je veux bien vous donner l'intelligible. La relation de raison. Mais c'est vous qui devez découvrir le réel. L'intelligence est faite pour découvrir l'être réel. Donc, au fond, ce qui est très important à comprendre, c'est qu'il y a deux registres de l'intelligence. Même trois, disons trois, aujourd'hui. Le registre univoque, le registre analogique, le registre mathématique. Le mathématicien a vraiment un registre spécial, qui est le registre mathématique, et qui est entre les deux, qui est entre le point de vue univoque et puis analogie. Il y a une certaine analogie. Le mot analogie vient des mathématiques et transposé en métaphysique. Parce que le grand matheux, il est toujours dans l'analogie, mais une analogie ni de similitude, ni l'analogie de l'être, qui est l'analogie mathématique. C'est l'être mathématique. L'être mathématique est est entre l'être de raison et l'être réel. Il a un caractère spécial. Les mathématiques, c'est l'homme qui les invente. C'est pour ça que ça plaît tellement à l'homme. C'est l'homme qui les invente, c'est l'homme qui les développe. Les mathématiques ont un fondement dans la réalité, mais le développement mathématique est au-delà de la réalité. Mais il y a toujours un fondement dans la réalité, un fondement plus ou moins prochain, qui montre comment les mathématiques peuvent aider à découvrir la technique, qui elle est au niveau mathématique, au niveau des réalités. Ceci, c'est pour vous montrer la souplesse de l'intelligence. Mon intelligence est semblable, analogie de similitude, à l'intelligence divine. Ma volonté est semblable à la volonté de Dieu. Tandis que mes passions, ma passion de colère, qui est la plus noble, dites-vous bien ça, c'est la passion la plus noble, la colère. Elle n'est pas semblable à Dieu. Quand je dis que Dieu se met en colère, c'est purement métaphorique. C'est pas une analogie de similitude. C'est purement métaphorique. Alors, il faut arriver à distinguer, vous voyez, l'analogie de similitude et l'analogie métaphorique. L'analogie métaphorique, c'est justement quand je dis le Christ est l'agneau de Dieu, c'est métaphorique. Mais comme c'est révélé selon l'Apocalypse, selon saint Jean, voici l'agneau de Dieu. Cette métaphore a toujours quelque chose de réel. Tandis que le poète, quand il fait ses poèmes, il emploie constamment la métaphore. Les métaphores que le poète prend ont toujours un certain fondement. Un certain fondement. Mais qui peut être très lointain. Tandis que, au point de vue surnaturel, la métaphore a un fondement direct. Par la propriété. Quand vous dites le Christ est l'agneau de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous voyez dans l'Apocalypse, le rôle de l'agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une analogie qui ne se sert plus de la qualité directement, mais des effets. L'agneau, c'est celui qu'on mène à la boucherie. C'est celui qu'on peut immoler facilement, qui est créé pour cela. Le Christ est l'agneau de Dieu. Tandis que similitude, analogie de similitude, dites l'intelligence de Dieu et l'intelligence humaine. L'intelligence de Dieu, elle est unie à sa sagesse. Mon intelligence est faite pour être unie à la sagesse. Il y a une similitude. Vous voyez, c'est toute la richesse et la souplesse de l'intelligence. Il est bien évident qu'en faisant la métaphysique, on découvre qu'on est intelligent. Et on découvre un des facteurs de l'intelligence qui est fait pour connaître l'être. La dernière fois, nous avions regardé que la métaphysique, c'est le toon et on. Le toon, langage d'Aristote, langage grec. Le toon, ce qui est. Le toon, ce qui est, et on, en tant que. C'est la réduplication, et c'est l'intelligence qui est capable de voir des points de vue différents. Vous voyez, quand vous visitez une cathédrale, ou une très belle église, et que vous avez un guide, c'est-à-dire quelqu'un qui la connaît très bien, il vous dira, mettez-vous à cet endroit-là et regardez. Mettez-vous à un autre endroit et regardez. Montez à la tribune et regardez. Vous avez des points de vue différents de la même réalité. Vous avez des points de vue différents de la même réalité et vous trouvez ça tout à fait normal. Hein ? Et puis vous pouvez monter en avion et avoir une vision aérienne. C'est encore un autre point de vue. La vision aérienne augmente le point de vue humain. Et je crois qu'il est à la racine de l'art abstrait. Puisque par l'avion, on a une abstraction tout à fait nouvelle. On a l'expérience de ça. Et cette expérience de ça fait que on peut alors analogiquement faire des similitudes, abstraire la réalité de tout ce qu'elle est au point de vue figurant et uniquement les couleurs. Ce que vous avez en vision aérienne. En vision aérienne, vous n'avez que les couleurs. Vous avez des couchers de soleil extraordinaires. C'est vrai, au point de vue lumière solaire, la vision aérienne est quelque chose d'extraordinaire. Quand vous passez la nuit dans l'avion, n'est-ce pas, et vous ne quittez pas le soleil. Et vous avez une vision aérienne toute neuve. Et dans la vision aérienne, quand vous vous élevez, tous les détails disparaissent, il n'y a plus que les couleurs. Alors, ça donne à l'homme une nouvelle expérience qu'il transpose dans son art. Et c'est, au fond, l'intelligence humaine est très souple. Hein. parce que l'intelligence humaine est très souvent, elle a de nouvelles expériences. C'est bien évident que les visions aériennes qu'on a nous donnent une vision du monde différent. Il y a quelque chose, une expérience neuve. Comment on l'utilise en art? Analogie de similitude. Il nous aide à comprendre, à voir mieux certaines choses. Il faut s'habituer à réfléchir sur une analogie d'être et d'analogie de similitude. C'est très important, ça. Quand on arrive vraiment à distinguer les deux, on comprend le passage du Deo uno ou Deo trino. Dieu fait un, Dieu dans son unité, Dieu dans sa trinité. Je ne peux pas prouver que Dieu est trine. Mais une fois que la foi m'a dit que Dieu était trois, je peux voir des analogies de similitude. L'intelligence de similitude ne touche pas l'être, l'existant, mais touche les qualités, touche les fonctions, touche les relations. Alors, la philosophie métaphysique ou philosophie première, la philosophie première commence par l'expérience. Si nous sommes en philosophie réaliste, je peux, ça a été fait, découvrir une métamathématique du CERN. Il découvre une métamathématique. Alors, la métamathématique met l'être, entre guillemets, du poquet. Je ne m'en occupe pas. Et je ne regarde que les relations. C'est très curieux. Et alors, le terme d'une telle métaphysique, tout à fait nouvelle, il a inventé un nouveau système métaphysique qui est tout à fait du temps, puisque c'est les mathématiques. Avec l'upoké, la mise entre parenthèses de l'être. L'être n'a pas le droit de paraître. Je suis uniquement dans la relation. Et je joue sur les relations. Et je peux jouer tout le temps. Alors, à ce moment-là, la recherche de l'être premier, puisqu'on met entre parenthèses l'être, il n'y a pas de recherche de l'être premier. Quelle est la relation première? Ah. Et j'ai les valeurs. J'ai la philosophie des valeurs. La philosophie des valeurs, c'est justement une philosophie qui est entre parenthèses l'être. Et au fond, les valeurs, c'est une philosophie de l'exemplaire, l'exemplarité, la valeur sert d'exemple, et n'est pas une fin. La valeur n'est pas une fin, mais elle peut être quelque chose qui joue le rôle d'exemple. Donc, parallèlement à la métaphysique, parallèlement à ce dépassement du physique, ce dépassement de la nature, c'est le physique, il y a la recherche husserlienne d'une méta-mathématique. La grosse différence, c'est que dans la méta-mathématique, l'être est mis entre parenthèses et je ne joue que sur la relation. En philosophie première, je reste toujours en contact avec ce qui est. La philosophie première n'est pas une philosophie du possible. Quand j'ai mis l'être entre parenthèses, je suis dans le domaine du possible. Tandis qu'au contraire, quand je regarde la réalité et que j'étudie la réalité, je suis qui existe. Je vois donc que le fondement de ma philosophie première repose sur le jugement d'existence. Je ne fais pas la métaphysique du possible. Vous voyez, je l'ai dit, quand j'étais à Fribourg, j'avais des amis qui étaient à Genève et qui m'avaient demandé de faire un cours que sera la philosophie en l'an 2000. Alors, je leur ai dit, on ne peut pas faire la métaphysique de l'an 2000. Je ne sais pas ce que je serai, et vous non plus. Vous pouvez faire des possibles, hein, très bien, élaborer toutes les possibilités, mais ce n'est pas la philosophie. Je fais la philosophie du réel, de ce qui est. Et ça, c'est capital de comprendre ça. Et c'est la différence avec la critique qui devient première, comme dans la philosophie ancienne. Alors, on accepte que ce qu'on a critiqué et le fondement, c'est ce qui a été critiqué. Le fondement de ma pensée, ce n'est pas ce qui a été critiqué, c'est ce qui est. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas critiquer l'être. Je critique les possibles. Toutes les possibilités, ça, les possibilités, je peux les critiquer. C'est donc une philosophie critique à l'égard du possible, mais pas à l'égard de l'être. À l'égard de l'être, je l'accepte ou je le rejette. Donc, la philosophie réaliste doit écarter tout ce qui n'est pas. Le possible n'est pas objet de ma philosophie première. C'est l'objet du prophète. Si vous voulez être prophète, érigez un monde possible pour l'an 2100. Alors vous arrivez à une possibilité et vous donnez ça comme quelque chose de possible. Nous allons vers ce monde-là si la fin du monde n'arrive pas avant. Alors mettez ça tout de suite. Parce que si la fin du monde arrive avant, votre hypothèse dégringole. Tandis que la philosophie du réel, elle reste réelle, même en face de la fin du monde. C'est l'immense avantage. La métaphysique restera dans le ciel. pas les mathématiques. Les mathématiques, le purgatoire. Purifier votre intelligence et arriver à distinguer ce qui est possible et ce qui est. Première distinction, capitale. Ce qui est possible et ce qui est. Le philosophe réaliste regarde ce qui est. Alors, il faut étudier de très près ce que c'est que le jugement d'existence. Quand je dis « ceci est ». Dans la vie, vous avez tous posé ce jugement. Et si on vous a accusé d'un crime que vous n'avez pas fait, vous dites « c'est possible, mais je ne l'ai pas fait ». J'aurais pu le faire, c'est évident. Je suis capable de toutes les bêtises possibles et de tous les crimes possibles. Alors si vous me jugez sur le possible, mais on juge sur ce qui est. Il y a une différence. Je crois que nous pouvons tous saisir la différence entre le possible. Vous avez des possibilités énormes. Un avenir magnifique, parce que toutes les possibilités vont se développer. Mais hélas, toutes ces possibilités ne se développeront pas. Vous devez regarder ce qui est. Dieu me regarde sur le point de vue de ce qui est. C'est ça qui est important. Vos possibilités, vous n'entrez pas au noviciat grâce à vos possibilités. Parce que le pauvre père maître, il aurait toutes les possibilités. Vous pouvez lui dire, ne regardez pas, mais regardez-moi dans 10 ans. Dans 10 ans, toutes ces possibilités-là seront réalisées. Alors le Père Maître répondra, alors je ne peux vous recevoir que dans 10 ans. Parce que je regarde ce qui est. Le monde d'aujourd'hui vit du possible. Les réclames partent sur le possible. Un produit nouveau qui arrive. Un nouveau poignard. On vous demande qu'avec ça, il n'y aura pas de danger que ça va se replier sur votre main. Un cran d'arrêt. Il est puissant. Vous pouvez y aller. C'est très curieux. Hein. Les propagandes se font au niveau du possible. Et le monde d'aujourd'hui est dans le possible. C'est pour ça qu'on a très peur des philosophes. Qui regarde ce qui est. Parce qu'alors il paraît quelqu'un de terrible. Parce qu'il juge ce qui est, pas ce qui a été, ce qui est. Vous voyez, on se réfugie aujourd'hui sur le passé et sur le possible. On a peur de regarder ce qui est. C'est très significatif, ça. Vous voyez, notre monde est un monde vieux. On regarde l'humanité sur ce qu'elle a été. On juge les hommes sur ce qu'ils ont fait il y a 15 ans. Mais c'est effrayant, ça. Je juge un homme sur ce qu'il est maintenant. Or, vous mettez sur votre carte d'identité que vous avez fait de la prison il y a 10 ans. Et ça reste toujours. C'est terrible, ça. Celui qui a fait de la prison, il a fait une bêtise quand il était jeune. À 15 ans, il a fait une bêtise. Toute sa vie est marquée par ça. Et on le juge en fonction de ça. Je connais certaines personnes qui ont fait des bêtises il y a 15 ans. Et puis depuis, tout est transformé. Elles ont fait de la prison. Non, puis il s'est transformé. La prison a été une excellente retraite. Et ils se sont convertis. Et quand on se convertit, le passé est passé. Alors, le monde d'aujourd'hui a peur de ce qui est. Alors, il regarde le passé ou le futur. Et on n'est pas en philosophie première. Et la philosophie première nous donne l'habitude de juger les personnes en voyant ce qu'elles sont. C'est intéressant de savoir ce qu'elles ont été, mais je ne juge jamais quelqu'un sur ce qu'il a été. C'est contraire au réalisme de la philosophie, ça. Et c'est contraire à l'Évangile. L'Évangile est terriblement réaliste. Jésus est d'un réalisme extraordinaire. Seul la philosophie de l'être peut servir à la théologie. Le passé ne sert pas à la théologie. Il y a des théologiens qui sont des théologiens du passé et qui raisonnent uniquement en fonction du passé. Ce n'est pas la métaphysique, c'est l'histoire. L'histoire ne me permet pas d'être assumée par la foi. Vous voyez ? C'est très important, ça. Si je lis l'encyclique du pape, Fides, la foi et la raison, je vois que le Saint-Père insiste en disant « Seule la philosophie de l'être peut servir à la métaphysique, peut servir à la théologie. » Seule la philosophie de l'être. Alors, premièrement, on dit, mais pourquoi ? Non, l'histoire. L'histoire ne peut pas me donner une théologie. Elle est seconde. L'histoire, c'est très important, mais elle est seconde. Je vis de ce qui est. Au point de vue de la foi, hein, l'histoire, c'est la tradition. Hein, c'est tout à fait différent. Et c'est au point de vue de la foi. C'est pas au point de vue métaphysique. Alors, on confond très vite les deux. On dit au point de vue de la foi, c'est la tradition. Mais oui, mais la foi. Mais la métaphysique. La philosophie, la théologie, c'est se servir de l'intelligence humaine, comme intelligence humaine. Je peux faire l'histoire de l'Église, c'est très bien, je la fais en croyant. Mais l'histoire de l'Église n'est pas la théologie. Et il faut arriver à discerner ce que représente le jugement d'existence, ceci est. Et voir que la philosophie première revient toujours à ce jugement d'existence, ceci est. Je peux très bien, à côté de ce jugement d'existence, te regarder comment une réalité actuelle, je regarde par exemple la substance, nous allons voir ce que c'est. Comment a-t-on parlé de cela avant ? Je fais de l'histoire. L'histoire existe. Elle existe au point de vue de la pensée. Elle existe au point de vue de l'art. Elle existe au niveau de la foi. donc le devenir. Mais ce devenir tout seul n'est pas immédiatement assumable par la foi. Pourquoi ? Parce que le devenir, je le connais d'une façon historique. Et donc, je ne le connais pas tel qu'il a été. Mais c'est tel que je le connais. Et donc, je n'ai plus une connaissance réaliste du passé. Et on raconte l'histoire de Jeanne d'Arc de façon très différente en France ou en Angleterre. Donc, il y aurait deux théologies, théologie française et théologie anglaise. Donc, la réalité à Londres est la même qu'à Paris. La réalité actuelle, mais la réalité passée, elle est différente. Un historien anglais, un historien français, un historien américain et le français. C'est très curieux et c'est très important ça. La connaissance du devenir, du passé, se modifie. Parce qu'elle est culturelle. Elle dépend de toute une culture. L'histoire dépend des documents. Et en fonction des deux. Et les documents sont gardés comme le fond d'une culture. La culture anglaise, ou la culture française, ou la culture américaine, ou la culture chinoise sont différentes. Alors, c'est un très gros problème, ça. C'est un très gros problème pour la liturgie. Parce que c'est la culture. Mais en métaphysique, est-ce que j'ai une métaphysique chinoise, une métaphysique française, une métaphysique anglaise, une métaphysique allemande ? Non. Il y a des cultures différentes. Je le vois dans le développement de l'art. Il y a des cultures différentes. Il y aura des liturgies différentes. Mais est-ce qu'il y a une théologie française, une théologie anglaise, une théologie américaine ? Non. La théologie, c'est la vérité. La foi est la même. Vous n'allez pas me dire que la foi est différente chez l'Américain ou chez l'Européen. La foi est la même. Et la métaphysique qui regarde l'être est la même. Alors je peux avoir plus de difficultés à ça, c'est autre chose. Arriver à la connaissance métaphysique dépend de toute une culture. Et c'est sûr que la culture chinoise et la culture européenne, c'est très différent. Donc, la manière d'aborder le problème est très différente. Mais l'être, quand je suis arrivé à saisir ce qu'est l'être, quand je suis arrivé à saisir le jugement d'existence, ceci est le même. Pour l'Européen que pour le Chinois. Donc il faut revenir, vous voyez, il faut revenir à ce qu'il y a de commun. Les cultures sont diverses. Toujours, elles sont toujours diverses. Il faut respecter leur diversité. Mais la connaissance de la métaphysique et la foi. C'est pour ça que la foi ne peut assumer que une philosophie première de ce qui est. La foi n'assume pas toute culture. Elle se manifeste à travers nos cultures et elle doit se manifester à travers nos cultures, mais elles sont diverses. Tandis qu'il y a quelque chose de commun je crois dans le Christ. C'est la même foi. Ceci est, c'est le même jugement. Je me souviens, c'était très amusant du reste, à une soutenance de thèse à la Sorbonne, c'est que un des examinateurs regardait toujours le candidat et me regardait aussi. Toujours, j'étais juste en face de lui. Il dit, mais ce jugement d'existence, ceci est, qu'est-ce que c'est ? Un philosophe qui avait fait sa philosophie et sa théologie et se demandait ce que ça signifiait, ceci est. C'est la première chose qu'on doit se poser. En philosophie première, vous devez tous réfléchir sur ce jugement, ceci est. Dans les différentes langues, ça n'a pas d'importance. Ça existe dans toutes les langues, ceci est, le verbe être. Et c'est pour ça que c'est tellement important de voir que la philosophie réaliste repose entièrement et totalement sur ce jugement d'existence. Ceci est. Et vous voyez, si je regarde, alors, au point de vue, non pas philosophique, mais au point de vue humain, si je regarde au point de vue de la foi, Dieu qui se révèle, je suis celui qui est. Yahvé. C'est intéressant de voir que en réalité, je ne comprends rien à la théologie. Si je ne comprends pas cette affirmation massive, je suis celui qui est. Dieu s'est révélé comme l'être pur, parfait. Le fil conducteur entre la philosophie et la foi, c'est donc le jugement d'existence. Il y a un point de contact là. Je ne dis pas qu'il est le même, mais un point de contact. L'être est analogique. Quand je dis ceci qui est, je suis. Quand je dis ceci est, c'est à l'égard d'une réalité contingente. Dans 10 ans, cette réalité ne sera peut-être plus. Et quand je dis « je suis », c'est une réalité contingente. Quand je dis « Dieu est », c'est une réalité nécessaire. C'est tout à fait différent. Et cependant, il y a quelque chose de commun. Il y a un point de contact. Ce qui permet de chercher les autres points communs et les autres points différents. Et le point de contact fondamental, c'est celui-là. Et le Saint-Père, alors, au point de vue philosophique, c'est secondaire, ce que dit le Saint-Père. Mais pour l'homme que je suis et pour le chrétien que je suis, c'est très intéressant de voir que le Saint-Père déclare avec force que seule la philosophie de l'être et des transcendentaux peut aider le croyant et peut lui permettre de réaliser une théologie. La théologie n'est pas la théologie des possibles. Parce que je sais très bien, au point de vue des possibles, je ne sais pas ce que Dieu peut réaliser. Je n'en sais rien. Et les possibles qui sont dans ma tête, qui sont dans mon cœur, que j'imagine, je n'en sais rien si ces possibles vont aboutir à une réalité. Donc, je serai toujours dans une espèce de prophétisme, de théologie prophétique, dans laquelle je ne peux pas m'engager. Je n'ai pas le droit de m'engager. Et je n'ai pas le droit d'engager les autres dans une théologie du possible. Très facilement, nous voyons que les théologies d'aujourd'hui sont des théologies du possible. Elles n'atteignent pas le point de vue de l'être. Or, puisque c'est des théologies du possible, je risque d'engager des hommes, des croyants, dans des perspectives qui ne se réaliseront jamais. Et donc, ils perdront leur temps. Je n'ai pas le droit de faire perdre du temps à mes frères, consciemment, d'être conscient que je leur fais perdre du temps. Parce que je ne sais pas si c'est vrai. Alors, vous voyez, l'importance pour nous, et cette importance, elle est doublée par le magistère. C'est pas philosophique le magistère, mais comme le philosophe que je suis est chrétien, comme le philosophe que vous devez devenir est chrétien, il a un devoir. C'est l'ordre prudentiel. Il a un devoir de ne pas aventurer ses frères dans une théologie du possible. Il ne peut le conduire que dans une théologie du réel. Et donc, il faut comprendre ce que le Saint-Père affirme de manière très forte. Ça n'a jamais été dit de façon si forte. Donc, si pour moi, cette encyclique Fides et Ratio est très précieuse parce qu'elle me montre que la première chose que je dois faire en philosophie et en philosophie première, c'est de regarder qu'est-ce que c'est que ce jugement d'existence, ceci?